Il est né en 1913 à Bigny, près de Bruyères, près du centre de la France, dans une famille relativement modeste de cultivateurs. Son père est maçon, sa mère est une femme à la maison. Il a un petit frère, Roger, il a une sœur aînée. Les grands-parents paternels sont relativement aisés. Et lorsque le père de Bascoulard hérite, il achète une maison à Saint-Florent vers les années 1920-21. Bascoulard n'est pas un bon élève. Il n'était pas très bon, sauf en dessin. On accrochait ses dessins sur les murs de la classe. Ses lectures, souvent, c'était Le savant Cosinus ou Le sapeur Camembert, ce qui n'est pas innocent parce que par la suite, quand il fera des dessins un peu humoristiques ou dans ses poèmes, il les farcira de calembours, de jeux de mots, enfin, qui viennent de cette référence culturelle, quoi. Bascoulard sort de l'école à 17 ans, il a 2 ans de retard, hein, il a quand même son brevet. Il commence aussitôt à dessiner. Il va voir les gens, les particuliers, les commerçants, et il propose des dessins. C'est comme ça qu'il commence à gagner sa vie. Il est toujours à Saint-Florent. On a retrouvé des dessins. C'est dans les familles, quoi. Les dessins se transmettent comme ça. Ils ne sortent pas, les dessins de Bascoulard. Souvent, il y a une petite histoire. C'est le grand-père qui a demandé à ce que sa boutique soit dessinée ou la cour intérieure. Donc Bascoulard commence comme ça. Il y a une marchande de matériel de dessin qui lui donne plutôt qu'il lui vend. Alors c'est des crayons qui sont cassés ou c'est des tubes de peinture à demi-séchés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être vendus, quoi. Donc il commence comme ça, bon, ce sera pratiquement toute sa vie qu'il dessinera comme ça. Quand il commencera l'encre de Chine, bah, il ajoutera un peu d'eau pour économiser un peu l'encre de Chine. Et donc alors, il est toujours à Saint-Florent, c'est un passionné de locomotive à vapeur. Quand il était déjà à l'école, entre midi et deux, il allait à la gare et dessinait les locomotives qui étaient à Saint-Florent, qui s'arrêtaient sur le viaduc. Sa grande passion, son rêve, ça aurait été de conduire des locomotives à vapeur. Alors, paraît que Bascoulard avait passé le concours de la compagnie Paris-Orléans, qu'il aurait été reçu, mais au conseil de révision, il n'a pas été pris, donc il n'a pas pu être chauffeur de locomotive. Ça a été la grosse déception de sa vie. Quand il va arriver à Bourges, on va le voir dans les rues de Bourges, et notamment l'architecte de la ville, Marcel Pinon, qui donne des cours à l'école des Beaux-Arts, qui va lui dire, venez prendre quelques cours. Il y a le témoignage d'un futur potier de la Borne, André Rosé, qui a été en cours avec Bascoulard, mais il dit que de toute façon, il écoutait pas du tout les conseils, il faisait les dessins à l'envers, enfin, c'était n'importe quoi, sauf qu'à l'arrivée, c'était lui qui a réalisé le plus beau dessin. Non, il a jamais pris de cours. C'est ce qu'il y a de très étonnant. C'est vraiment un don, quoi. Ce qu'on trouve dans les dessins de Bascoulard, c'est qu'il y a à la fois un sens de la perspective assez extraordinaire. Alors c'est très minutieux, notamment sa grande période, l'encre de Chine, et qu'il arrive à transcrire les différents matériaux, c'est-à-dire l'herbe sèche, l'herbe mouillée, la boue. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on rentre dans un dessin de Bascoulard. Il y a ce phénomène-là, presque de relief. Et ça, c'est assez étonnant et remarqué par les critiques d'art. Bon, il y en a qui comparent ses dessins à ceux de Rembrandt. Bon, c'est peut-être aller loin, mais on le compare avec des grands graveurs qui ont fait ce genre de dessin, mais à Bourges comme à Paris. Ils faisaient payer 50 francs le dessin. Ils demandent, oui, une somme dérisoire. Il ne demandera pas toujours, d'ailleurs, de l'argent. Souvent, les dessins lui serviront de monnaie d'échange. Ses compagnons, c'est les chats. Alors, il paye comme ça la viande hachée pour ses chats, ou les boîtes de lait, ou de sardines. C'est souvent sa monnaie d'échange. À Bourges, il y a une galerie, il y a la marchande de matériel de dessin qui expose les dessins. Mais le plus souvent, les gens qui achètent ces dessins, l'argent reste dans la galerie ou chez la marchande de matériel. Bascoulard a pratiquement jamais d'argent sur lui. Il a un rapport à l'argent d'ailleurs assez étonnant. Il y a cette anecdote, il demande 50 francs par dessin, il va donner le dessin à son client et son client n'a pas de monnaie, il a qu'un billet de 100 francs. Bascoulard déchire en deux et lui rend la moitié. En 1932, un dimanche de septembre, sa mère tue son père d'un coup de revolver dans le dos. Dans ses poèmes, il en parlera souvent. Il prendra d'ailleurs la défense de sa mère. Il dira toujours que son père était un monstre et que sa mère, en tuant son père, a bien débarrassé la famille. Les a tirés de l'enfer. Alors sa mère, évidemment, elle est arrêtée. Il n'y aura pas de procès parce qu'elle est considérée comme un peu dérangée. Elle sera internée à Bourgard. Bascoulard, pour se rapprocher de sa mère, vient à Bourges. Et donc, il est à Bourges en 33-34. Très vite, il va habiter un peu n'importe où. Il habite dans des marais, dans une cabane. Il habite dans un grenier. Il va habiter assez longtemps dans le quartier Avaricom. Et le quartier Avaricom, à l'époque, c'est la cour des miracles, c'est des taudis. Son royaume, c'est la rue Mirbeau et tous les commerçants. Ça va du photographe Morlaix. On leur doit pas mal de photos de Bascoulard, jusqu'à le grand, le tailleur, qui l'emmènera un jour habillé de propre, avec un costume, au salon de la gastronomie. Ça sera à peu près la seule fois qu'on verra Bascoulard rasé de près. C'est très étonnant, parce que les toutes premières photos de Bascoulard, il est plutôt pas mal d'ailleurs physiquement, il est pris en photo au studio Morlaix. C'est quelqu'un qui est propre, bien mis. La grosse interrogation, c'est pourquoi et comment il devient ce marginal, ce clochard habillé en guenille, quoi. Enfin, avec une blouse sale, mal rasée, les cheveux hirsutes, ignorant complètement le savon. L'explication la plus plausible, c'est que c'est pas quelqu'un qui est rejeté de la société, c'est lui qui se met en marge de la société. Il choisit son personnage. Il y a une photo emblématique où il est dans une attitude quasiment christique, comme s'il était devant une apparition. Et là, il est habillé alors en haillons, mais des haillons qui font penser à des costumes de théâtre. On dirait un moine avec sa bure ou un chevalier errant. Mais la photo est assez belle d'ailleurs et je trouve qu'elle symbolise tout à fait le personnage de Bascoulard. Il a été pris en photo, ou il s'est pris lui-même en photo, mais des milliers de fois. Et c'est quelqu'un qui pose à chaque fois. Il y a relativement peu de photos de Bascoulard pris par surprise. La plupart des photos que l'on connaît, c'est soit il a été pris en photo par Morlaix, père et fils, ou c'est lui-même, avec un appareil photo de sa fabrication, qui se prenait en photo. Alors ces photos, oui, il y en a des milliers. Alors la plupart, il les date. Au dos des photos, il met le nombre de poses, la date. De temps en temps, il met un petit mot, parce qu'il distribue ses photos comme des cartes de visite. Il faut dire qu'il n'est jamais pris habillé en homme. La plupart des photos, il est pris habillé en femme. On le voit dans la rue habillé en femme. De temps en temps, il provoque des attroupements. Et donc, il est arrêté par la police. Dans un procès verbal, il dit qu'il s'habille comme ça en femme depuis 1942. C'est esthétique. Il se trouve beau en femme. Alors, faut préciser que Bascoulard n'est pas homosexuel. Il n'a pas eu de vie sexuelle. Hein. Tous les témoignages le confirment. Il y a peut-être le rapport à la mère. Faudrait décrypter un peu les poèmes avec un psychiatre, ce que j'ai fait un peu. En revanche, Bascoulard a un rapport très fort avec la mode. Il ne se contente pas de s'habiller en femme. Il dessine les patrons. Il a des couturières à qui il envoie les patrons avec les mesures. Il engueule parfois ses couturières quand elle n'a pas respecté au centimètre près le patron. Il a aussi des périodes. Au début, c'est plutôt des crinolines. Alors, il mettait plusieurs jupes pour que ça bouffe un peu. Quand il est, par exemple, invité au salon gastronomique, il y a un défilé de mode. Il discute avec un mannequin. Il est intéressé, hein, on a découvert, ça fait pas très longtemps, des dessins de mannequins. Je crois que Bascoulard est intéressé par la mode féminine. Ce qu'il y a d'intéressant chez Bascoulard, c'est qu'il est le témoin d'une ville en évolution. Bourges va beaucoup évoluer dans les années 60, notamment à Varicom. C'est la fin des Taudis, c'est les premières HLM. Et Basse-Coulard dessine tout ça, et les vieilles rues. Il dessine pas que les monuments, quoi, la cathédrale, Palais Jacques-Cœur. Parce qu'à un moment donné, Basse-Coulard en a assez de dessiner toujours la même chose. Ça commence au milieu des années 60. Souvent, il recopie ses propres dessins. Ou alors, il va pas les bâcler, mais ça va être beaucoup moins précis. Lui, il appelle ça sa période fractionniste. Par exemple, il y a une cathédrale avec des pointillés. Il y a que la silhouette de la cathédrale. Il a légendé ça, Lévitation. Il a sa période blanche. Les dessins sont peu à peu réduits à des esquisses. D'où son évolution vers les dessins abstraits. Mais il n'est absolument pas suivi par sa clientèle. Il n'y en a qu'un qui va faire une collection de ses abstraits, c'est son boucher de la rue Mirbeau, Jean-Claude Leboeuf. Il commence à devenir quelqu'un qu'on reconnaît pour son talent de dessinateur à la fin des années 60, quand on organise à la Maison de la Culture une exposition, début 68. Il va y avoir 10 000 visiteurs, quoi. C'est assez impressionnant. Cette exposition, d'ailleurs, se fera sans lui, parce que lui, il dit qu'il n'a pas de dessin, que faut voir avec Madame Réti, qui lui vend du matériel de dessin. Et en fait, les organisateurs vont lancer un appel aux collectionneurs ou à ceux qui ont des dessins pour organiser cette exposition. Il est tellement détaché de ce genre de choses qu'au vernissage, il n'y sera pas. Il y a une interview pendant cette exposition dans la Nouvelle République. Mais il dit à un moment donné que, de toute façon, les gens sont bien gentils d'aller voir cette exposition, mais c'est pas lui, quoi. Ses dessins sont tellement précis qu'on dit que ça ressemble à des photographies. Lui, il considère qu'il n'est pas photographe. Que ses dessins soient comparés à des photographies, il n'aime pas trop. Alors, il dit qu'il n'ira jamais voir cette exposition. Il y a un témoignage de quelqu'un de la Maison de la Culture qui dit qu'au lendemain du vernissage, il est venu avant l'ouverture de la Maison de la Culture et qu'il l'a visité en silence. Basse-Coulard n'a pas eu qu'un tricycle. Il y a eu un premier tricycle qu'il a commandé. Alors, c'était suivant ses plans. Il allait voir Monsieur Narcy, qui était garagiste. C'est une machine complètement improbable. Mais Basse-Coulard tenait à ce que ça soit comme ça pour transporter ses cartons à dessin. Il y a des gens qui l'ont vu se déplacer sur ce tricycle. Ce qui peut paraître un peu étonnant, mais ils l'ont vu pédaler, donc il a fonctionné. Et ce premier tricycle a disparu à la Libération dans un incendie. Donc il a refait faire un deuxième tricycle sur le même modèle. Ce deuxième tricycle a été cassé et réparé, soit on a fait un troisième. Mais il n'y a pas eu qu'un tricycle, c'était un attelage assez étonnant. La plupart des gens se souviennent de Basse-Coulard pour son tricycle. Hein, ouais. Basse-Coulard n'aimait pas qu'on le regarde dessiner. Souvent, il faisait mine de se gratter en disant « j'ai des puces » pour chasser un peu les gens. Mais il y en a très peu qui l'ont vu dessiner. Alors, il y en a beaucoup qui avaient envie de s'approcher. Soit il faisait fuir les badauds, soit lui-même fuyait. Alors, il pouvait dessiner à n'importe quelle heure. Des gens qui l'ont vu dessiner à minuit, avec pratiquement pas d'éclairage. Il pouvait aussi se mettre place plancha et puis dessiner la cathédrale. Il y a une autre caractéristique de Basse-Coulard, c'est qu'il avait une mémoire phénoménale. Plusieurs témoins qui disent avoir conversé en allemand avec lui, en russe. C'est des langues qu'il apprenait dans le dictionnaire. Il avait des dictionnaires, il apprenait les dictionnaires par cœur. Il avait une mémoire assez étonnante. Je vous ai parlé de la passion qu'il avait pour les locomotives. Alors, il connaissait par cœur les numéros des locomotives, les horaires, pour connaître un certain nombre de dessins de Basse-Coulard. Parfois, c'est simplement une esquisse et il va terminer son dessin complètement ailleurs, dans sa tanière, chez un artisan où il va se mettre au chaud. Il n'est pas obligé de rester devant son modèle pendant tout le dessin. Il n'est pas du tout SDF. Basse-Coulard a choisi cette vie. Quand on le chasse d'Avaricom, la mairie lui propose un logement. Mais lui, il n'en veut pas. C'est pas qu'il n'a pas les moyens. Il paye, paraît-il, ses loyers. Qu'il soit dans un grenier, dans une cabane ou dans un taudis à Avaricom, il paye un loyer. Il doit être le seul des gens qui squattent. Mais dans plusieurs de ses interviews, il confirme ce choix. Il n'est pas du tout SDF. Il pourrait très bien vivre autrement. Mais je crois que c'est un fou de liberté. Il récupère tous les chats errants. On le voit dans ses poèmes. Quand il y a un de ses chats qui meurt, c'est une catastrophe. Il a des poèmes aux chats tigrés, défunts, ou à Machette Blanche, morte d'un cancer. Enfin, c'est vraiment ses compagnons. Bon, il a dû avoir un ou deux chiens, mais lui, il considère que les chats sont indépendants et que le chien est plutôt un animal servile, donc il préfère les chats. C'est quelqu'un qui se moque complètement du confort, des contingences matérielles. Il joue son personnage, hein, parce qu'il est familier de l'autodérision. Hein. Il se moque de lui-même. Hein. On le voit sur certaines photos, par exemple, il fait le pitre avec des casseroles. C'est quelqu'un qui, à la fois, ne se prend pas au sérieux, mais très rapidement, il s'est confectionné un personnage. Ce qu'il y a, c'est qu'il va être fidèle à ce personnage jusqu'au bout, parce que quand il est jeune, il n'est pas sensible au froid, mais les dernières années, dans sa correspondance, il commence à avoir un peu moins bien. La froidure, bah, ça commence à l'embêter, mais il le dit, hein, il l'écrit. Hein, n'empêche que par n'importe quel temps, il retourne dans son taudis. Il faut voir les photos pour y croire. C'est inimaginable. Il dort dans une cabine de camion où il peut être à peine assis, surtout pas allongé. Il fait chauffer quoi, j'en sais trop rien, mais c'est dans des boîtes de conserve, sur un petit réchaud. C'est clair à la bougie, évidemment. Il rentre complètement trempé quand il pleut. Je crois que c'est une force de la nature aussi, parce qu'il n'a pas vu beaucoup le médecin. On l'a vu une fois, parce qu'il s'était enfoncé, paraît-il, un clou dans le pied. Alors, il avait entouré son pied avec des chiffons. On le voit très rapidement sur les photos, quand il sourit, il a quasiment plus de dents. Enfin, c'est vrai que c'est un personnage très étonnant. Basse-Coulard à lui-même se met pas mal de légendes. Par exemple, il a une confidente qui s'appelle Rita Parisi, qui a été sa voisine les 10 dernières années. Il lui raconte des choses. Elle a noté certaines anecdotes, mais ce qui sont complètement différentes de la réalité. Ça, c'est Basse-Coulard qui détourne complètement la vérité. Mais après, il y a des gens qui, par exemple, l'ont vu très bien habillé prendre le train. Robert Gouin, qui était un de ses grands amis, lui m'a écrit que c'était un mythe. Il est allé une ou deux fois à Paris, mais pas plus. Moi, on m'a raconté qu'on avait vu dans une émission télévisée, c'est une émission scientifique, Basse-Coulard débattre avec Louis le Prince Ringuet. J'ai cherché à l'INA, a priori, on aurait dû retrouver quelque chose, mais y a rien. Basse-Coulard, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a souvent des témoignages qui se contredisent, d'où la difficulté d'ailleurs à écrire une biographie sur Basse-Coulard. Les gens se sont appropriés des anecdotes, alors est-ce qu'ils les ont vraiment vécues ou qu'ils se sont persuadés alors qu'on leur avait raconté, c'est impossible quoi, à trier. Par exemple, pour le meurtre de sa mère, il y a des témoins qui disent « les enfants étaient loin de la maison » et il y a un autre témoin qui dit « j'ai vu sortir la mère qui venait de tuer le père » suivi de Basse-Coulard, qui d'ailleurs était très joyeux que sa mère ait tué son père. C'est un personnage qui prête aussi à ce genre de choses, mais quand on va au-delà de toute cette fiction et de ces petites légendes, on s'aperçoit que la réalité est encore plus intéressante. La preuve de ce roman policier que j'ai retrouvé à la bibliothèque des Quatre Piliers, c'est un roman policier qui est écrit en 70-71, et qui commence par la découverte d'un cadavre sur les lieux mêmes et dans les mêmes circonstances que sera découvert le cadavre de Basse-Coulard. Alors, il est écrit en 70-71. C'est un roman à quatre mains. L'un des auteurs, Henri Gillet, meurt en 76. L'autre, Michel Fromage, est aussi enseignant et il part un peu avant, je crois, de Bourges. Et ce roman qui met Basse-Coulard comme héros, puisqu'il est premier suspect du crime, va mourir en 78, c'est-à-dire 6-7 ans après l'écriture de ce roman, qui s'impose comme un roman prémonitoire ou d'anticipation. Les derniers temps, Basse-Coulard a confié à des commerçants qu'ils se sentaient menacés. Alors il disait qu'il y avait quelqu'un qui lui réclamait de l'argent. Ça peut venir d'une interview en 76. Stéphane Corlaro vient voir Basse-Coulard. Il l'interview, il y a même un journaliste local qui est présent. Et Basse-Coulard dit, entre autres, un peu dans ses délires, qu'il est milliardaire. Il a rencontré, je ne sais pas trop, des gens qui sont repris de justice et qui sont d'ailleurs en prison. Et Basse-Coulard dit, mais quand il va sortir de prison, il va me tuer. Alors les gens lui disent, monsieur Basse-Coulard, vous racontez un peu n'importe quoi. Qui voudrait vous tuer, etc. Ces gens-là, au moins, qui lui demandent de l'argent régulièrement. Alors là, on est à la fin de 1977. Effectivement, cette personne va être libérée peu de temps avant la mort de Basse-Coulard. Le problème, c'est que les inspecteurs qui ont mené l'enquête après la mort de Basse-Coulard n'ont pas du tout suivi cette piste. Pourquoi ? C'est que Basse-Coulard a été retrouvé un matin étranglé. Très vite, l'enquête a suivi une piste d'un jeune homme probablement incapable de tuer Basse-Coulard, enfin de commettre un acte aussi violent, parce que tous les témoins qui l'ont connu, les journalistes qui ont mené leur enquête le confirment, c'est quelqu'un qui est plutôt réservé, quelqu'un de doux, de timide, c'est plutôt un souffre-douleur d'ailleurs, ses copains de classe disent. C'est un orphelin qui habite à l'époque au foyer Saint-François, avec sa copine. Elle va témoigner qu'il est arrivé le matin très énervé, le pantalon maculé de boue. Donc très vite, ça va être lui qui va être suspecté. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas lui, mais que probablement il était sur place. Ce jeune homme, qui s'appelle Jean-Claude Simion, a fréquenté ces types qui étaient en prison, donc il doit les connaître. Donc très vite, ça s'est focalisé sur ce type-là, on n'a pas cherché ailleurs. Ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai retrouvé par hasard, c'est aux archives départementales, il y a une lettre de Basse-Coulard, il écrit à la mairie, fin 77, pour trouver un boulot à Jean-Claude Simion. Ce qui montre que ils étaient plutôt en bon rapport. On ne voit pas trop ce type étrangler Basse-Coulard. Ce type a été jugé, il a pris 15 ans. C'est son voisin qui, un soir, a vu le chien de Basse-Coulard errer, il s'appelait Toby. Le voisin, c'était celui qui avait prêté le champ en friche à Basse-Coulard pour qu'il habite là. Donc il a suivi le chien et il a trouvé Basse-Coulard étendu, raide, probablement étranglé avec un fil de fer. C'était un soir de janvier. Bon, il était dans la boue parce qu'il faut imaginer un peu le taudis de Basse-Coulard. Et là, très vite, la police est venue. Et puis, ils ont suivi la piste du suspect qui, pour moi, n'a pas commis le crime, mais a été complice, surtout témoin. Ma conviction, c'est que les personnes qui avaient été libérées peu de temps avant et qui lui réclamaient de l'argent sont venues convaincues que Basse-Coulard avait de l'argent quelque part. Ils ont voulu lui prendre cet argent, et puis voilà, ça s'est mal passé. Alors Simion était là, probablement, puisqu'il a dit c'est comme ça que ça s'est passé. Et lui, il était bien incapable de commettre un tel acte. Le Berry républicain en a fait sa une. Très rapidement, détectives ont fait une double page. Et surtout à Bourges, c'est un choc, les gens n'y croient pas. Basse-Coulard, presque éternel, et cette fin aussi tragique, dans un premier temps, il le refuse. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Basse-Coulard, qui était un libre penseur, enfin, il avait dit un jour « merde à la procession », où il avait écrit « je nie Dieu », enfin bon, va avoir des obsèques, va y avoir une souscription pour payer sa place au cimetière, va y avoir une cérémonie religieuse, d'autant plus étonnante que c'est le curé de Notre-Dame, près de la Varicome, le coin de Basse-Coulard, qui va officier. L'abbé Henri Poubeau, qui était un copain d'enfance de Basse-Coulard. Ce pauvre abbé va être dépassé par les événements et il va faire une cérémonie devant une foule. Et là, il y a une homélie. Donc, c'était grandiose. À la hauteur de la réaction de Bourges, Basse-Coulard n'était plus déjà ce simple clodo qui dessinait, puisque 10 ans plus tôt, il y avait eu cette exposition à la Maison de la Culture. Aussitôt, après, on organise une nouvelle exposition à la Maison de la Culture. Et Basse-Coulard a déjà un pied dans la légende. Assez rapidement, une place va être baptisée à son nom. À Saint-Florent, il va y avoir la rue où habitaient ses parents, qui va prendre son nom. Ensuite, un sculpteur, Bezard, qui crée un buste, place Basse-Coulard. Plus que Jacques Coeur, Bourges, c'est Basse-Coulard.
Marcel Basse-Coulard, raconté par Patrick Martina. Merci à lui. Je vous rappelle que Patrick Martina est l'auteur de 2 très beaux livres sur cet artiste, Marcel Basse-Coulard.